Cette année, on va surtout, enfin cette année, cette semaine, on va surtout regarder l'arrière-plan, parce que ce sont des textes, c'est un peu le problème de tous les textes de la Bible, mais particulièrement dans l'Ancien Testament. On est tellement loin de ce contexte social qu'il faut chercher un peu comment c'était à cette époque-là, si on veut comprendre, et si on veut surtout pas comprendre de travers. Parce que c'est quand même une époque très difficile, hein, l'époque de l'Ancien Testament. On y revient un petit peu. Hein, je vous avouerai, quand je vois certains tatouages, etc., je me dis, tiens, on revient aux Cananéens. C'est vieux comme le monde, les tatouages. Et les Cananéens étaient des grands adeptes de se faire des incisions, etc. Bon, voilà, donc on y revient peut-être à cette période de paganisme. Mais. Donc on va s'attarder un tout petit peu sur le contexte, et puis aussi on va voir un petit peu ce qui s'est passé depuis qu'on a quitté David. On a quitté David l'année dernière, David est mort, et on a vu que ce serait Salomon son fils qui va lui succéder. Avant, j'ai entendu un message qui m'a beaucoup intéressée, et il disait ceci: la Bible est remplie d'histoires. Histoire de personnages de toutes sortes. Et comme ça fait des années que je m'occupe des différents personnages de la Bible, ça m'a interpellée. Des humains, comme dit Jacques, de la même nature que nous. On pourrait raconter toute la Bible en passant de l'histoire d'un personnage à un autre. Et c'est un peu ce que je fais depuis une quinzaine d'années ou un peu plus. Effectivement, la Bible part de l'humain. Et c'est quand même une particularité. Et pas un humain seulement, mais plusieurs. Plusieurs caractères, plusieurs nationalités. Oui, on a une Moabite avec Ruth, des femmes, des hommes. Enfin, c'est des personnages que Dieu a suivis. Et c'est vrai que je trouve ça formidable dans la Bible. Elle nous parle presque toujours de la vie des gens, la vie quotidienne, les difficultés de la vie. Et puis en plus, quand Dieu veut nous communiquer son amour, comment il va faire? Il va le faire grâce à une personne, Jésus. Et on a toute sa vie sur quatre évangiles. Comme ça, on est sûr de ne pas manquer un coin, hein, pas manquer une face. C'est incroyable. Il le fait au travers d'un être humain. Il se fait homme. Oui, c'est ce désir de Dieu d'être proche de nous. Hein, j'aime ce verset, je le cite toujours, je radote, tout le monde le sait. Chaque jour, je tends les bras vers ce peuple. Rebelle. Chaque jour, je tends les bras. Et on sent Dieu qui tend les bras vers nous. Ce n'est pas un Dieu lointain. Et c'est important de le rappeler, parce que je pense que l'ennemi aimerait bien qu'on oublie ça. Et puis, quand il désire choisir un peuple qui témoigne de sa présence, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit un homme, Abraham. Voyez, c'est constant, ce désir de s'approcher et de passer au travers des humains. On est important pour Dieu, tous. Et en tant qu'être humain, on a un appel, on a un rôle, on a l'amour de Jésus envers nous, qui a donné sa vie pour nous. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, au lieu de faire un livre qui raconte plein d'histoires, Dieu aurait pu s'arranger autrement, faire un recueil de morale. Tu dois pas, il faut pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vous trouverez ça dans d'autres religions. Il y a des passages qui montrent clairement ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas présenté comme ça. Ou bien même de philosophie. Quand j'enseignais à la culture biblique, j'avais un élève qui disait « Moi, je suis bouddhiste. Ce n'est pas une religion, madame, c'est une philosophie. » Ça m'avait amusée. Une philosophie. Il aurait pu présenter une philosophie au monde. Il aurait pu faire un recueil de lois, et ça, il y en a dans la Bible. Lévitique, Deutéronome, pour un peuple qui se créait, qui commençait à vivre de façon autonome, 40 ans de désert, etc. Il y a eu effectivement un recueil de lois, mais pas que. Il aurait pu évoquer des réalités très mystiques, avec des héros. Alors si vous avez fait un petit peu de... vous avez fait ça à l'école, 6e, 5e, je crois, hein, les héros grecs, les dieux grecs, les divinités pour qui presque tout était possible. Certains devenaient fous, certains Ouais, t'es très méchant. Des demi-dieux avec des pouvoirs extraordinaires. Il aurait pu imaginer des anges avec des rituels compliqués. Des supermen, quoi. C'est pas du tout ce qu'il a fait. Il a pris des humains de la même nature que nous. Et j'insiste là-dessus parce que finalement, la Bible, elle n'est pas loin de nous. Même si les cultures sont différentes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est proche. Dieu est proche. Et c'est ça que j'aime dans la Bible. On peut ouvrir sa Bible et lire quelque chose, lire une histoire et se dire, waouh, ouais, ce gars, il réagit comme moi. Pourtant, ça fait 2000 ans ou 3000 ans ou 4000. Hein? On peut se retrouver quelquefois hein, dans les crânes d'Abraham, dans les entourloupes de Joseph, de Jacob, dans l'orgueil du petit jeune Joseph. Enfin, on retrouve parce que ça n'a pas changé. Les cultures ont changé, mais le cœur de l'homme est toujours le même. Impeccable, ça n'a pas bougé, hein. Ça c'est fantastique. Donc, en résumé, Dieu choisit d'être proche de notre humanité. Il tient compte de nos faiblesses. Oh, ce n'est pas que, ouh là, des héros dorés sur tranche. Il tient compte de nos faiblesses, il les connaît. Il tient compte de nos limites, et Dieu sait qu'on est limité en tant qu'être humain. Il tient compte de nos fautes, de nos possibilités de péché, de nos désobéissances. Mais aussi, il connaît nos bons côtés. Et pourquoi je dis ça? Ça fait un petit peu bizarre de dire, oh oui, mais Dieu connaît nos bons côtés. C'est pas parce que ça efface le reste. C'est parce que quand même, c'est écrit quand il dit, je connais tes œuvres. Dieu sait tout ce qu'on a fait de bien. Il n'ignore pas. C'est pas ça qui nous sauve, hein. Parce que ce qui nous sauve, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Mais il connaît nos œuvres. Et je suis un petit peu étonnée, mais ça c'est l'être humain, hein, quand on voit ce qui se passe en ce moment avec certains humoristes qui ont fait des grosses bêtises. Du jour au lendemain, les gens lui tournent le dos, évidemment. Et puis, c'était un très bon humoriste, il avait beaucoup de succès. Et puis voilà, il a fait une énorme bêtise. C'est fini. C'est fini, on marche dessus. On oublie tout ce qu'il a pu faire de bien. Moi, je sais pas, je le connais pas trop, c'est pas mon préféré, mais les réactions humaines, elles sont là. Hein. On regarde la bêtise et on voit plus le reste. Et pourtant, Dieu, lui, continue à voir ce qu'on a fait de bien. J'ai vu tes œuvres. Ça console, hein, quand on a fait des bêtises et qu'on se dit, oh là là, que le Seigneur puisse nous dire, j'ai vu tes œuvres. J'ai vu ce que tu as fait de bien. Tu as été fidèle là, tu as été fidèle là. Croyez-moi, il l'oublie pas. Ça ne sert pas à notre salut, mais il ne l'oublie pas. Ça fait du bien quand même de savoir ça. Alors c'est ça qui nous parle dans la Bible. Et je le dis particulièrement aux jeunes, quand vous lisez la Bible, pensez à regarder en quoi vous êtes pareil que ces personnages. Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme eux? Qu'est-ce que vous voudriez bien éviter pour pas faire comme eux? C'est très important. On se reconnaît dans nos moments de découragement, on se reconnaît dans nos souffrances. On aspire aux qualités. Ah oui, il y en a certains, vraiment, on les admire. Hein. Esther, elle a eu du courage. Hein. Ruth aussi. Je parle pour les filles, bien sûr, là. Mais pour les hommes, il y en a aussi beaucoup. Hein. Et on est consolé par le pardon. Et ça, c'est important. Le pardon que Dieu a accordé, l'amour que Dieu a accordé. Je pense au fils prodigue. Ça, c'est une histoire extrêmement importante pour nous. Quand on n'a pas fait ce qu'il fallait, quand on n'a pas été bon. Et Dieu a gardé son amour. Et avec cette belle histoire du fils prodigue, on voit un petit peu mieux que même si Dieu n'est pas d'accord et n'est pas content de ce qu'on a fait, il nous garde son amour. Et ça, c'est difficile hein, pour un humain, de continuer à aimer quelqu'un qui fait des âneries énormes. Mais Dieu lui garde son amour. Alors l'année dernière, on a rapidement terminé l'histoire de David en racontant la fin de sa vie. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, je fais un résumé le plus bref possible. La fin de la vie de David a été difficile. Et franchement, c'est une partie de la vie de David que je n'aime pas du tout. Parce que ça a été vraiment des grandes souffrances morales, au fond de son cœur, quelque chose de vraiment très dur. C'est particulièrement la relation avec son fils Absalom, qui était très beau, très aimé de tout le peuple. Et visiblement, David avait un grand faible pour ses fils, et particulièrement pour Absalom. Absalom va carrément préparer un coup d'État. C'est un homme extrêmement politique, extrêmement manipulateur, très intelligent. Et il va réussir à retourner contre David plusieurs de ses amis les plus proches. Ça, c'est terrible. Des amis de longue date qui ont suivi David, qui ont supporté ses défauts, mais qui ont apprécié la victoire sur Goliath, la victoire sur les Philistins, les frontières. Hein, les frontières se sont élargies avec David. Il n'y avait plus la peur des Philistins, le pays est devenu prospère, etc. Bon, tout ça, ça a été oublié. Absalom était suffisamment intelligent, suffisamment politique pour retourner les amis proches de David contre lui. Et ça, ça a été quelque chose de très dur pour David. Des gens qui l'ont soutenu dans les moments difficiles, des gens qui ont été proches et qui ont réussi à accepter d'être retournés contre lui. Et dont son meilleur conseiller quand même, Achitophel, qui l'avait suivi depuis le début. Et puis, bien sûr, Absalom avait vu qu'il y avait des failles dans le système de David. On n'est pas sûr hein, historiquement, mais il semble quand même, puisqu'Absalom a beaucoup joué là-dessus, qu'il y avait des failles dans le système judiciaire. La façon de rendre la justice, apparemment David était un peu trop cool. Et avec son fils aîné qui avait violé sa sœur, il n'a rien dit, il n'a rien fait, il n'a pas bougé, et ça Absalom ne l'a pas accepté. Ça se comprend, bien sûr. Mais il va relever toutes ces faiblesses-là, et il va aller jusqu'à inviter les notables d'Israël à un sacrifice à Sichem sans leur dire ce qu'il va faire. Et une fois arrivé là, il s'est proclamé roi. Les notables, en toute bonne foi, ils n'étaient pas au courant, ils ont suivi. Donc vraiment une sacrée manipulation. Douloureux pour David parce que ça a fait une guerre civile entre les partisans d'Absalom et les fidèles de David. Pour faire court, Absalom meurt au cours d'une bataille. Et David revient à Jérusalem, il reprend sa place, mais il y a une grande tristesse, je trouve. Il n'est plus tout à fait le même. Un peu plus tard, tout à la fin de la vie de David, Rebis, un autre fils de David, qui avait pris sa leçon avec Absalom, visiblement, Adonias, qui à son tour veut devenir roi. Et là, David est âgé, la Bible dit qu'il ne parvenait plus à se réchauffer. C'était vraiment les dernières années de sa vie, derniers mois probablement. Adonias, lui, est très sûr de lui. Et il va être aussi malin que son frère pour détourner Joab, le chef de l'armée qui a accompagné David depuis le début. C'est fort quand même. Il va arriver à retourner Joab contre David. Ben oui, David est vieux maintenant, il faut passer à autre chose. Sans tenir compte de ce que Dieu avait dit. La prophétie était claire, Nathan l'avait dit, c'est Salomon, de la part de Dieu, c'est Salomon qui doit régner. Et Adonias va faire un festin où il invite tout le monde, sauf le prophète Nathan, sauf Tsadok, sacrificateur, et bien sûr, sauf Salomon. Et tous les frères étaient là, mais pas celui-là. Donc il savait ce qu'il faisait, il savait que c'est ce que Dieu avait demandé. Donc il les a mis à part, et il a invité tous les autres. Il fait une fête avec tous ses frères, et là c'est le prophète Nathan qui réagit. On ne le voit pas souvent Nathan, hein, mais quand on le voit, ce n'est pas pour rien, hein. Et le prophète Nathan va vite aller voir David, d'abord Bethsabée et puis David en disant « Mais David, tu avais bien dit que Dieu avait demandé que ce soit Salomon qui soit le successeur. » Et David n'était pas au courant de la démarche d'Adonias, de ce festin, etc. Et donc il va proclamer rapidement Salomon roi. David va mourir peu de temps après et c'est Tsadok, donc le sacrificateur, le prêtre et Nathan qui vont faire l'onction royal à Salomon. Voilà. Donc vous voyez, c'est une période tourmentée qui fait mal au cœur parce que David est un homme brisé arrivé à ce stade et il voit bien que même ses fils ont oublié tout ce qu'il avait fait de bien et se sont focalisés sur, moi je pense, son système judiciaire, mais peut-être qu'il y avait d'autres choses, sur les erreurs qu'il avait pu commettre. Et puis il était vieux, ça résumait tout. Cette année, on va aller un petit peu plus loin. Alors, on va faire un petit saut d'une centaine d'années. Machine à remonter le temps. On va sauter d'une centaine d'années pour arriver au prophète Élie. Alors, il y a un événement qui explique beaucoup de choses dans toute la Bible, même dans le Nouveau Testament. Vous allez voir pourquoi. Salomon va régner 40 ans avec un très bon début, beaucoup de sagesse. Et puis, avec le nombre de femmes étrangères qui adoraient toutes sortes de dieux, Bon, la fin de son règne n'est pas si belle. Et c'est son fils Roboam qui va lui succéder. Mais alors le problème de Roboam, au moment de régner, et ça c'est un passage que vous connaissez tous, j'imagine, Roboam, il est jeune, il va devoir prendre en main ce grand pays, puissant, prospère, et il a un problème. Il a entendu dire que Salomon, il avait forcé sur les impôts et les taxes. Alors, c'était pas la retraite à l'époque, il n'y en avait pas. Mais c'était les impôts et les taxes parce qu'il avait construit le temple, il s'était construit un palais, il avait fait des tas de frais de toutes sortes, une flotte, je crois aussi. Et il va demander conseil aux conseillers de son père. C'était des vieux bougres aussi, hein, les conseillers de son père. Et ils disent, non, là, Obama, là, franchement, il faut alléger les impôts. Il faut alléger les charges sur le peuple. Ils t'en seront reconnaissants, sagesse. Oh, il faut que l'argent rentre quand même. Hein. Il veut être un roi, hein, quand même, prospère. Alors il va voir les jeunes, ses copains. C'est logique. Des gens de son âge, des jeunes gens qui disent « Ah non, 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 tu ne vas pas alléger les impôts. Tu vas leur dire que ton petit doigt est plus fort que... La main de ton père, ou je ne sais plus, enfin, c'était vraiment, je ne connais plus la formule, mais enfin, tu vas les alourdir au contraire, pour que ça rentre l'argent. Bon, et tu vas leur dire, moi, j'alourdirai votre joug. Charmant. Tu es jeune et dynamique. On va alourdir le joug du peuple. Le peuple, il est là pour payer. Vous savez, ça n'a pas changé, ça. Hein. Je crois que depuis tant d'années, hein. 1 Roi 12, verset 11. Le résultat, c'est que le peuple, les 10 tribus du Nord surtout, vont trouver un porte-parole dans un certain Jéroboam. C'était responsable des corvées. Vous savez, comme au Moyen-Âge, hein, où il fallait donner un certain nombre d'heures de travail au Seigneur. Ben, c'est pareil à cette époque-là. Hein, c'était comme quoi les choses ne changent pas beaucoup. Ça s'appelait peut-être pas pareil. Mais il y avait un travail. Chaque tribu devait faire des corvées obligatoires, gratuitement, pour le pays, le roi. Et Jéroboam était responsable des corvées des tribus d'Éphraïm et Manassé. Tribu, double tribu de Joseph, vous vous souvenez. Alors, conformément à ce que Dieu avait annoncé à Salomon et que le prophète Abija de Silo avait prédit à Jéroboam, le pays est divisé. Les 10 tribus, n'obtenant pas ce qu'elles voulaient, vont faire sécession. Et c'est là qu'on va voir, là maintenant vous allez comprendre pourquoi dans le Nouveau Testament, on parle tout le temps des Samaritains, les vilains Samaritains qui adorent un veau d'or. On se dit, mais c'est quoi ça? Eh bien, c'est ces fameuses 10 tribus qui ont dit ras-le-bol des impôts. Et ils ont suivi leur chef, Jéroboam, qui s'est proclamé roi sur le nord d'Israël. 10 tribus contre eux, Benjamin et Juda. Puis il paraît qu'il y a un petit bout aussi d'une autre tribu. Mais en tout cas, grosso modo, c'était Benjamin et Juda. Malgré cette rupture, il y a quand même un sentiment d'unité. On appartient au même peuple, mais on n'a pas le même roi. Mais il a eu un problème, Jéroboam. Si je ne fais pas quelque chose, au moment de Pâques, au moment de Soukhot, au moment de ceci, cela, des différentes fêtes, ils vont tous aller à Jérusalem. Et ça, moi, je n'y tiens pas. Donc, il a une idée géniale, pour lui en tout cas. Il fait un autel au sud du pays et un autel dans le nord. Au sud, c'est Bethel, au nord, dans la tribu de Dan. Et il dit, voilà, dessus, près de cet autel, on va mettre quoi ? Un veau d'or. Oui, on avait eu un dans l'histoire d'Israël. Mais ce n'était pas une trouvaille. Dieu n'avait pas été content. Moïse était furieux, il en avait cassé les tables de la loi. Enfin... qu'est-ce qui lui a pris à Jéroboam ? Vous savez, la pression culturelle, elle est forte. On ne se rend pas toujours compte, mais on subit notre culture, qu'on le veuille ou non. Et comme tout le monde avait des dieux en forme de, vous avez vu, d'aigle, de chat, de crocodile, il fallait une forme et il s'est dit, un veau, on en a déjà fait un. La pression culturelle. Tous les peuples avaient un dieu qu'on pouvait voir. On pouvait en faire des miniatures et le mettre en amulette, etc. Pression culturelle, elle est forte. Et nous, maintenant, c'est peut-être pas dans ce domaine-là, mais c'est dans d'autres domaines. Hein. Et c'est difficile de résister. Donc, ils font un veau d'or. Et pouf, un veau d'or dans le nord, un veau d'or dans le sud, c'est magnifique. Et le peuple devient idolâtre. Et malgré cette rupture, je dis bien le sentiment d'appartenir au même peuple est là, mais au niveau religieux, chacun son truc. Et du coup, les juifs purs de Juda, ils vont toujours avoir cette méfiance envers le nord. Ce sont des idolâtres. Ça explique pourquoi Jésus, vous savez comment est Jésus souvent, hein, il aime bien nous prouver qu'il ne s'arrête pas aux problèmes humains, va montrer que souvent les Samaritains se comportaient mieux que les gens de Juda. Vous savez pourquoi ? Le bon Samaritain, Jésus qui va avec la femme samaritaine, il reste 3 jours dans son village, enfin, vous imaginez, c'était une horreur pour eux, pour les gens de Jérusalem. Parce que ce sont des idolâtres. Mais voilà, on a mis tout le monde dans le même paquet, certainement que ce n'était pas le cas de tous. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, les deux pays sont séparés. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi hein, les deux pays sont séparés. Donc, vous avez Juda au sud et puis les Samaritains au nord et Jéroboam. Du côté de Juda, il n'y a pas beaucoup de changements, à part l'usurpation du trône par la reine Athalie. D'ailleurs, on a une pièce de théâtre, là, les jeunes, peut-être un jour vous la ferez à l'école. C'est Corneille ou Racine ? Je ne sais plus, c'est l'un des deux. Et ça ne va pas trop changer, la dynastie de David va rester présente. Donc la promesse de Dieu, elle tient. Les fils, petits-fils, arrière-petits-fils de David, sauf la période avec la reine Nathalie. Par contre, pendant toutes ces années, donc ça fait 60 ans, si on enlève les 40 ans de Jéroboam, pendant toutes ces années, il va y avoir 9 dynasties différentes en Israël. Donc en Israël, c'est la cata. C'est sûr, ils n'adorent plus exclusivement le Seigneur Dieu. Du coup, l'État va mal. Et alors là, je suis horrifiée. C'est quand j'ai lu, j'ai mis du temps d'ailleurs là-dessus, parce que j'ai regardé la vie de chaque roi et comment il a fini sa vie. Alors il y a des assassinats, il y a des guerres civiles, et puis le suivant suit les coutumes que David n'avait pas voulu suivre. Il suit les coutumes de l'époque. Quand on tue un roi, on tue toute sa famille pour pas qu'il y ait de descendants. Et là, voilà, vous allez avoir un roi. Eh ben voilà, on tue toute sa famille, le gars le remplace. Et puis la même chose lui arrive à son tour, curieusement. Hein. Et ça va se passer sur 9 dynasties. Donc vous voyez, ça fait beaucoup. 9 dynasties différentes. Donc ça ne passe jamais à la deuxième génération. Il y a le gars qui a pris le pouvoir, son fils. Et c'est fichu, le fils se fait assassiner. Enfin, voyez. Bon, vous avez compris, c'est compliqué. Alors, ils sont tués par leurs successeurs, ou bien il y a des guerres civiles. Et surtout, ce qui revient régulièrement dans le texte biblique, et ça, on va s'attarder là-dessus, pour chacun des rois donc, du nord d'Israël, ils faisaient ce qui déplaisait au Seigneur. Et qu'est-ce qui déplaisait au Seigneur ? C'est l'idolâtrie. Le livre des rois insiste, et c'est tout le livre des rois, insiste sur l'idolâtrie des rois d'Israël, qu'il appelle le péché de Jéroboam, parce que c'est Jéroboam qui a commencé en installant ses deux veaux d'or. Un roi 16, vous avez ça, verset 31. Donc ça, j'ai expliqué pourquoi. Et le texte d'aujourd'hui présente un événement qui se passe en Israël sous le règne d'Akab. Donc on va prendre, alors je vais prendre en français courant, normalement je fais dans la NBS, mais pour les ados qui sont là, je pense que je vais le prendre en français courant. On va commencer 1 roi 16, verset 8. Donc vous voyez, on est arrivé, on a eu la succession de rois, et on arrive à un certain roi qui s'appelle Akab. Pendant la 26e année du règne d'Asa sur Juda, alors c'est très curieux parce que les dates se font avec les rois du sud, avec les rois de Juda. C'est marrant. Pendant la 20e année du règne d'Asa sur Juda, Éla, fils de Bacha, devint roi d'Israël. Il régna pendant 2 ans. Un de ses officiers, Zimri, commandant de la moitié des unités de chars, forma un complot contre lui, classique, tandis que le roi était à Tirsa, chez Arsa, le chef du palais royal, en train de boire et de s'enivrer. Bon, il y avait de l'ambiance chez eux. Zimri vint et l'assassina. Ben tiens. Et cela se passa pendant la 27e année du règne d'Asa sur Juda. Zimri s'empara du pouvoir, heureux, et dès qu'il eut pris place sur le trône royal, il fit massacrer toute la famille de Baasha, bon, bien sûr, tant qu'à faire. Il ne laissa subsister aucun homme, enfant ou adulte. Ça, c'était vraiment... Et vous vous souvenez que David avait refusé de faire ça, ni dans sa parenté, ni dans ses partisans. Zimri extermina donc toute la famille de Baasha. Il y a une insistance, hein, conformément à ce que le prophète Yehu avait annoncé de la part, Jéhu donc, avait annoncé de la part du Seigneur. Parce que ça aussi, ça avait été annoncé. Et là, vous commencez à voir dans ce texte, on parle des prophètes qui avaient annoncé les choses. Et ça s'est bien produit. Tout cela arriva parce que Baasha et son fils Ela avaient péché et avaient poussé le peuple à pécher et parce qu'ils avaient irrité le Seigneur, le Dieu d'Israël, par leur idolâtrie. Tout le reste de l'histoire d'Ela est contenu dans le livre, etc. Bon, on va passer 16, verset 29. Pendant la 38e année du règne d'Asa sur Juda, vous voyez, on fait toujours les dates en fonction du sud, Akab, fils d'Omri, devint roi d'Israël. Il régna 22 ans à Samarie. Alors, c'est important de se rendre compte qu'il était bien installé, lui, Akab, hein, contrairement aux autres qui se faisaient régulièrement assassiner, il y en a même un qui s'est suicidé. 22 ans, c'est beaucoup, hein. Mais il fit ce qui déplaît au Seigneur encore plus. Retenez ça, encore plus que tous les rois qui l'avaient précédé. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nébat, donc celui qui avait commencé, il alla jusqu'à épouser Jézabel, fille d'Ethbaal. Ethbaal, ça veut dire avec Baal, roi des Sidoniens. Et il s'inclina devant le dieu Baal pour lui rendre un culte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un juif? C'est un enfant d'Israël? C'est quoi ça? Enfin, 60 ans après Jéroboam, à Samarie même, il construisit un temple pour Baal. Ben voyons. Il fit dresser un autel pour les sacrifices. Il y plaça un poteau sacré. Oui, il va loin, c'est pas juste la petite idolâtrie une fois de temps en temps pour les fêtes. Par toutes ses actions, il irrita le Seigneur, le Dieu d'Israël, plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Donc là, on a affaire à un très mauvais roi. Très, très mauvais. Alors, une petite allusion qui précède notre histoire. C'est à cette même époque qu'un certain Yael de Bethel, donc en Samarie, reconstruisit la ville de Jéricho. Et vous vous souvenez, il y avait une prophétie qui avait dit qu'il ne fallait pas la reconstruire. Mais à ce que Josué, fils de Noun, avait prédit de la part du Seigneur, mais ce que Josué, fils de Noun, avait prédit de la part du Seigneur se réalisa. Hein? Donc là, encore une fois, on dit un prophète qui parle et ça se réalise. Vous voyez, c'est la deuxième fois là dans ces textes-là. Yael perdit son fils aîné, Abiram, lorsqu'on creusa les fondations de la ville, et son fils cadet, Ségoub, lorsqu'on posa les portes. Donc deux fois, les prophètes ont parlé de la part de Dieu et deux fois, ça s'est réalisé. Et puis, on arrive sur notre texte. Et là, moi, franchement, je ne me souvenais pas de ça. Et je me souvenais de toutes mes histoires d'école du dimanche et tout, mais comme ça. Comme disent les Anglais, out of the blue, c'est pas trop d'où ça vient. Élie, un homme du village de Tishbé en Galaad, dit au roi Akab, « Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, voici ce que je te déclare, il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. » C'est quoi ça? C'est qui ça? Il n'est pas présenté. Je me suis dit, c'est pas possible, on est en train de raconter ce qui se passe, et puis Élie, un homme du village, paf! Et ça, vous savez, la Bible, quand on la lit, il faut regarder ce qu'il y a d'écrit, il faut aussi penser à ce qu'il devrait y avoir normalement et qu'il n'y est pas. Ce qu'il n'y est pas, ça parle aussi. Rien ne présente Élie. Alors, on sait très bien qu'il y a Akab, hein, Dieu a pris soin de bien le présenter juste avant, là. Mais alors, Élie, rien. Mais qui est cet Élie? Son nom signifie « Mon Dieu est l'Éternel ». Alors, dans la littérature sémitique, dans tous les textes du style de la Bible, on ne mentionne jamais quelqu'un sans, presque jamais, sans prononcer le nom de son père au moins, d'où il vient. Là, on dit juste son village, en plus un village qui n'est pas connu, on ne sait pas trop où il est, en Galaad, quelque part, à l'est. Son lieu d'origine est vague, c'est un petit village apparemment, on ne l'a pas retrouvé. Et il n'y a rien sur le lieu de la rencontre. D'habitude, on dit, et le prophète se rendit auprès d'eux dans les montagnes, enfin, Il n'y a rien.
Qui ?
Où ? Rien non plus sur ses démarches. Comment il a fait pour aller voir le roi ? Attendez, il avait une garde, il avait une armée, il avait des courtisans. Rien. Et alors là, c'est ce qui m'a choquée, parce que je l'ai relu plusieurs fois dans différentes versions. Rien n'est mentionné sur l'appel de Dieu à Élie. Et l'Éternel dit à Élie, va vers Akab. Non, rien. C'est bizarre. Alors, tout est fait en fait pour qu'on se concentre. Vous voyez comme quoi l'étude du texte vous permet de voir certaines choses. Tout est fait pour que le lecteur se concentre sur le message. Il a longtemps parlé de l'idolâtrie des rois. Ah oui, ça, il nous a mis dans le contexte. Et maintenant, tout est concentré sur le message. On ne sait pas qui est lié, on ne sait pas d'où il vient. C'est le message. Il n'y aura plus de pluie ni de rosée. Tout est fait pour que le lecteur se concentre sur le message. Pour ce qui est de la rosée, je vous signale qu'elle peut représenter 100 à 180 mm d'eau par an dans les collines de Palestine. Du coup, c'était important. Nous, ça peut nous sembler accessoire, mais quand il disait ni pluie ni rosée, c'était fort, c'était vraiment grave. Alors, Élie, mon nom est l'Éternel, son lieu de vie est inconnu, c'est quelque part donc à l'est du Jourdain. Alors, il était connu pour quelque chose, Élie, pour ses vêtements, son apparence. C'est rare dans la Bible. Et Deux Rois 1:8 nous dit, il portait un vêtement fait de poils de chameau avec une ceinture autour de la taille. Et ça, on le reconnaissait tout de suite. Mais bon, le texte n'en parle pas, c'est un petit peu après qu'on le voit. Autant Akab est présenté, autant Élie ne l'est pas. Alors, beaucoup de théologiens pensent que Élie apparaît de cette façon et il va disparaître aussi à la fin de sa vie, dans un char de feu. Donc, quelque part, il a quelque chose d'un peu mystérieux. Il arrive là, sur la scène, dans une période d'idolâtrie, et il va repartir de façon étrange aussi. Et on va le retrouver, Élie, sur la montagne de la Transfiguration, avec Jésus et Moïse. Vous voyez, il y a quand même quelque chose avec Élie. Voilà. Élie se présente comme un homme qui sert Dieu. Alors, la version en français courante dit « Par le Seigneur vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. » Serviteur de Dieu. La phrase traduite dans les autres textes, dans les autres traductions, c'est « devant lequel je me tiens ». Et j'aime bien cette idée, se tenir devant Dieu. Se tenir devant Dieu dans l'écoute, se tenir devant Dieu dans la prière, se tenir devant Dieu, simplement. Hein, ça voulait dire, effectivement, être le serviteur. C'est pour ça que le français courant dit « dont je suis le serviteur ». Alors, il parle au nom du Seigneur, mais rien n'est dit. Le Seigneur lui dit de dire. Hein. Il parle, comme ça. Ça m'avait frappé, ça. J'ai relu plusieurs fois, j'ai dit, mais c'est marrant, on dirait qu'il parle en son nom. Et il annonce donc une sécheresse, et là aussi, de durée indéterminée. On peut se demander pourquoi, sécheresse indéterminée, sauf s'il le demande. Parce que quand Dieu agit, il laisse la place à la réaction de l'homme. Le but de Dieu n'est pas de punir, de saquer les gens. Le but de Dieu, c'est de laisser du temps, d'exécuter un certain jugement, mais de laisser du temps à l'être humain pour revenir de sa mauvaise voie. Donc, c'est indéterminé. Je pense que si Akab, ce jour-là, et là j'en suis sûre, s'était mis à genoux et avait supplié Dieu de pardonner, bon, la sécheresse, ça ne va pas durer longtemps. Elle était déjà un peu en route, hein, d'après ce que j'ai compris. Mais certainement, elle se serait arrêtée assez vite. Parce que le but de Dieu était de faire réagir l'être humain. Et il ne faut jamais voir Dieu comme quelqu'un qui punit pour le plaisir de punir. Il n'est pas sadique. Il laisse du temps à l'homme pour se repentir. D'ailleurs, vous avez ça dans l'Apocalypse à propos de Jézabel. Hein. Je lui ai laissé du temps. Dieu nous laisse du temps. Pour des grosses choses, mais aussi pour des petites choses. Et parfois, malheureusement, les gens prennent ce temps comme une approbation. « Oh, ben ça va. Mais regarde, il ne m'arrive rien. » Ben oui, Saint Dieu est patient. Il attend. Il attend qu'on revienne vers lui. Et c'est ça le problème de l'idolâtrie. L'idolâtrie nous éloigne de Dieu. Et il attend qu'on revienne. Hein, c'est pas « Ah, il ne faut pas adorer d'autres dieux. » Bien sûr. Mais ça nous éloigne de celui qui a tout fait pour nous. de celui qui nous aime. Et on parle de la jalousie de Dieu, qui est une jalousie de protection. Ce n'est pas une jalousie maladive, c'est une jalousie qui protège. Le problème de l'idolâtrie, c'est qu'on s'éloigne de celui qui nous bénit, on s'éloigne de celui qui nous protège, pour adorer quoi ? Des trucs qui nous font du mal, des trucs qui peut-être même nuisent à notre santé, à notre repos. On s'éloigne. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. En fait, ce qu'il veut, c'est notre bien. Il ne veut pas nous embêter, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Et puis, non. L'essentiel dans le problème de l'idolâtrie, c'est ne t'éloigne pas de Dieu. Que ça ne t'éloigne pas de Dieu. Et je crois qu'on pourrait aussi, nous, au niveau de l'application de ce texte, se dire, qu'est-ce qui, dans ma vie, nuit à ma relation avec Dieu ? C'est ça le problème, c'est pas « je dois pas, il faut pas », le pasteur dit, ou bien l'église dit, ou bien certains textes bibliques. Qu'est-ce qui nuit à ma relation avec Dieu ? Est-ce que ce que je fais en ce moment encourage ma relation avec Dieu ? M'entraîne à prier, m'entraîne à lire ma Bible, ou est-ce que ce que je vis en ce moment m'éloigne ? Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et personne n'a rien à dire. L'idolâtrie de soi. Et je pense que c'est la question qu'il faut se poser, parce qu'il y a des choses tout à fait innocentes qui peuvent devenir une idolâtrie. Ah, mais c'est pas mal de travailler quand même, Dieu a dit. Hein, tout travailleur mérite son salaire, etc. Oui, mais si à cause de mon travail, je peux plus prier, je peux plus m'occuper de ma famille, je peux plus prier avec ma femme et mes enfants, je peux plus... Il y a un souci. Tout ce qui m'éloigne de la relation avec Dieu. Voilà. Il faut bien comprendre ça, parce que sinon, on a l'impression qu'on a affaire à un Dieu qui est là à vous guetter. Oula, tu fais de l'idolâtrie là. Oh là, tu vas voir ce que tu vas prendre. Non, c'est vraiment pour notre bien. C'est vraiment pour dire, allez, viens. Et le geste de la sécheresse, évidemment, c'est horrible. Mais c'est, allez, ils vont vite revenir. Revenir à Dieu. Alors, maintenant, comment est-ce qu'Élie a eu le culot d'aller dire ça au roi, comme ça ? Et je me suis aperçue qu'en fait, Élie connaissait bien ses textes bibliques. Et il était sûr d'avoir raison. Ah ! Parce que la Bible dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aurait pas de pluie. Ah, ah ! L'idolâtrie entraînerait la sécheresse. Et je me souviens d'un pasteur indien que je traduisais souvent quand il venait en France, il est décédé maintenant, mais il me disait qu'il était indien d'Inde, de Madras, on disait Madras à l'époque, et il me disait, mais l'Inde est un pays riche, c'est un pays qui pourrait se suffire à lui-même, qui pourrait nourrir ses habitants, qui pourrait vraiment développer toutes sortes de belles et bonnes choses. Il y a des gens intelligents, Pourquoi c'est un pays presque tiers-mondiste, il m'a dit, c'est à cause de l'idolâtrie. Son père avait été hindou, s'était converti, avait vécu un réveil en Inde, et me disait, si seulement ils n'étaient pas idolâtres comme ça, ce serait un très beau pays, un pays très riche, pourrait égaler les États-Unis à l'aise. Et bon, c'était un homme éduqué, hein, il avait fait ses études à Oxford, etc. Mais il était vraiment, il aimait son pays. Et il ne disait pas n'importe quoi en disant ça, l'idolâtrie. Et on trouve ça ici, l'idolâtrie. Et qu'est-ce que dit la Bible ? Eh bien, il fermerait les cieux, il n'y aurait pas de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Voyez, Dieu donne des bonnes choses. Et quand on se détourne de lui, les choses vont mal. Et c'est pas, voyez bien que c'est pas la punition, Dieu qui attend là qu'on fasse une bêtise. C'est on va contre nos intérêts en s'éloignant de Dieu. C'est pourquoi Jacques écrit dans son épître, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût pas et qu'il ne tombât pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Élie s'appuyait sur la parole de Dieu. Donc la sécheresse, elle est liée à la menace de Dieu envers l'idolâtrie. Mais ici, elle prend une toute autre dimension. Akab et sa femme étaient des fervents adorateurs de Baal. C'était pas comme ça pour faire bien. Hein. C'était des fervents adorateurs de Baal. Et Baal, eh bien, imaginez, c'était le dieu de quoi? Ça vous dit quelque chose, Baal? C'était le maître du temps qu'il fait. On dirait la météo aujourd'hui. C'était le maître du temps qu'il fait. De la fertilité, de la nature. Il chevauchait les nuées. Les nuages, donc, qui donnent la pluie. Dieu va faire donc autre chose que de rappeler son peuple à revenir. Il va prouver au roi et au peuple d'Israël que Baal n'est pas le maître de la nature. Et quand un prophète de Dieu dit « c'est fini, il ne pleuvra pas », Baal, il ne peut rien faire. Il n'a aucun pouvoir. Et ce serait bien qu'on se rappelle de ça, et moi la première, l'ennemi n'a pas tout pouvoir. Et quand Dieu dit non, c'est non. Et Baal, il a beau... Enfin, les adorateurs de Baal ont beau faire toutes sortes de choses. Il n'a pas plu. Parce que Élie avait prié, s'était appuyé sur la parole de Dieu. Il avait transmis la parole de Dieu pour rappeler le peuple. Et ce Dieu de la nature, ce maître de la nature, n'a rien pu faire. Et Dieu voulait dire à Akab, regarde. Regarde, ce petit bonhomme-là, habillé avec ses poils de chameau, là. C'est pas grand-chose, hein. Mais il a toute l'approbation de Dieu pour dire « il ne pleuvra pas ». Et ton Baal, il peut se proclamer maître. Il n'y arrivera pas. Et Dieu va prouver, il va prouver à Akab, tu peux toujours chanter, le Dieu d'Israël, l'Éternel, c'est lui qui commande. Ah! Dieu, bien sûr, il attend que son peuple revienne, se repente, et l'adore à nouveau. C'est pour ça qu'il ne donne pas de durée. Mais il attend le retour du peuple vers lui. Non pas comme une punition, mais juste un appel au retour. Alors, moi, ce qui m'a choquée, c'est « sauf si je le demande ». C'est fort quand même. Faut oser, hein. Il ne pleuvra pas, sauf si moi je le demande. Alors, ça pourrait être interprété un peu prétentieux, hein. Je pense que les jeunes, là, vous devez ressentir ça un petit peu. Oula, il pousse un peu Élie, là. Mais parce qu'il avait en tête justement ces deux choses. Il faut que le peuple revienne, revienne à Dieu, et il faut que le peuple comprenne que Baal n'est pas un dieu. Rien. Il est rien. Et je crois que le verset, alors là, je connais pas l'hébreu, mais il me semble me rappeler que c'est l'inanité du Dieu, c'est-à-dire c'est rien, c'est rien, le mot qui est employé, c'est rien. Ce Baal, il est rien. Sauf si je le demande. Donc, il s'appuyait sur la parole de Dieu. Mais quand même, ça choque. Et il y avait une autre raison, hein, sauf si je le demande. Parce qu'Akab, qu'est-ce qu'il va faire pendant la sécheresse? Il va faire chercher Élie partout. Il va envoyer partout des gens, dans les montagnes, dans les villages. Où est le prophète Élie? Où est le prophète Élie? Parce qu'il voudrait bien lui faire dire que la sécheresse doit s'arrêter. Mais ce n'est pas si simple que ça. Hein. C'est Dieu le maître. Il ne comprenait rien de ça, hein, Akab. Rien du tout. Ah, il faut saisir Élie et puis lui faire dire, là, ça va s'arrêter. Il l'a fait effectivement chercher, il ne l'a pas trouvé. Parce que, et c'est là qu'on a la suite, le Seigneur adressa la parole à Élie, « Pars d'ici, va vers l'Orient et cache-toi. » Alors moi je me suis dit, mais pourquoi se cacher? Bah oui, parce qu'Akab, il voulait bien le récupérer, je n'avais pas réfléchi à ça. Il faudrait tout pour le récupérer et le forcer à dire que la sécheresse s'arrête. Seulement, on verra plus tard que pour que la sécheresse s'arrête, il a fallu qu'Élie y prie, hein, avec insistance. Et c'est là qu'on a ce problème-là. Mais pourquoi faut prier puisque c'était c'est ce que Dieu voulait? Ça vous est jamais arrivé de dire ça? Mais pourquoi faut prier? Pourquoi faut tout le temps répéter les choses? Pourquoi faut aller vers Dieu et prier, comme on disait ce matin, avec persévérance? Et la Bible parle d'insistance, l'épître de Jacques. Ça vous est jamais arrivé de dire mais... Quoi? Il faut prier et reprier et reprier. Mais on perd son temps, Dieu n'est pas sourd, il nous a entendus la première fois. Et pourtant, le grand Élie, il a prié avec insistance. Et vous rappelez de cet épisode, on le verra plus tard, où il envoie son serviteur, et puis, ah, c'est pas encore, et finalement il voit ce petit nuage, et ça y est, Dieu m'a répondu. Mais pourquoi? Puisque Dieu l'avait prévu, Dieu voulait s'en servir pour ramener son peuple, pour montrer que Baal ne valait rien. Il fallait quand même prier. La réponse que j'ai trouvée, ce n'est pas forcément la seule, vous en trouverez peut-être d'autres, c'est que Dieu veut nous associer à ce qu'il fait. On n'est pas des marionnettes. On n'est pas des... vous voyez bien les marionnettes, hein, les fils, là. Mais non, on n'est pas des marionnettes. On n'est pas non plus complètement, je fais ce que je veux, quand je veux, et personne n'a rien à dire, non plus. Il y a un juste milieu, où on s'associe avec Dieu. Et quand je prie, en fait, c'est ma marque aussi, je m'associe avec Dieu. Quand je prie pour que quelqu'un guérisse, quand je prie pour différents sujets qu'on a vus tout à l'heure, les jeunes, l'équipe nouvelle, etc., je m'associe. Bien sûr que Dieu a des plans, mais en priant, je m'associe et je dispose mon cœur. Oh, le cœur de Dieu, c'est déjà fait depuis longtemps. Mais je dispose mon cœur à se mettre un peu en harmonie. Hein, c'est un petit peu comme avec la musique, hein, les musiciens me comprendront. On se met sur le diapason, on dit. Hein. On se met là. Quand on prie, c'est une façon de se mettre au diapason. Et comme notre cœur est un peu dur et qu'on est un peu bouché parfois, eh ben, ça prend du temps. Et dans la prière, on arrive à se mettre au diapason avec Dieu. Et on s'associe. En fait, la prière, c'est beaucoup pour nous, pour disposer notre cœur. Et pour marquer notre dépendance à Dieu. Sauf si je le demande, voilà comment on peut comprendre les choses. Et évidemment, Dieu va cacher le prophète Élie. La parole d'Élie va se montrer plus puissante que le dieu Baal. Et ça sera le premier défi. Vous comprenez pourquoi Jézabel va papifrer Élie ? C'est le premier défi qui est lancé au prophète, au prophète et aux adorateurs de Baal. C'est le premier défi, ce ne sera pas le dernier. Vous savez très bien qu'après, il y en aura un pire que ça. Mais Dieu parle. Dieu parle au travers de ça. C'est un défi qui est lancé à Baal. Dieu montre qu'il sanctionne l'infidélité de son peuple et sa folie de s'être confié dans des faux dieux de l'infertilité, de la fertilité. Et puis Dieu envoie Élie se cacher. Il est hors d'atteinte d'Akab. Aucune puissance ne l'obligera à prononcer la parole libératrice. L'absence d'Élie va aussi être une preuve de plus du déplaisir de Dieu. Ah, eh bien, je vous enlève même le prophète. Vous ne pourrez pas aller le chercher pour le supplier. Il va être caché. Alors, je pense qu'on pourra terminer la prochaine fois. Je ne veux pas vous prendre trop de temps. En gros, Dieu démontre sa souveraineté sur la nature. Il peut donner des ordres à des corbeaux, on le verra la prochaine fois, qui sont complètement contraires à leur nature. Vous savez, c'est casse-pieds les corbeaux, c'est volontaire. J'ai eu un problème une fois avec des corbeaux qui passaient leur temps à taper sur les fenêtres. Oh. J'ai dû appeler le garde-chasse du village, j'ai dit, faites quelque chose parce que là on va devenir fous. On avait des gens qui dormaient à la maison, étaient réveillés à 3h du matin ou 4h du matin parce que... tapait sur les... C'est têtu un corbeau. Il n'y avait rien à faire, on a tout essayé. Il a fallu que le garde-chasse s'en occupe. Mais là, Dieu va contre la nature même de l'animal. De donner au lieu de prendre. Le corbeau, il prend. Hein, s'il y a une carcasse sur la route, vous les voyez filer là et dépouiller ça. Il va l'obliger à donner. Donner de la viande. Alors que les corbeaux, ils aiment ça. Hein. Il va l'obliger à donner. Il est maître de la nature. Il est maître de la nature. L'important dans cette histoire, on va s'arrêter là, c'est la relation entre Dieu et Élie. Il a une communion tellement forte avec Dieu, il connaît tellement sa loi qu'il peut se permettre, ce que nous, on ne pourrait pas se permettre, de dire, voilà, il y aura une sécheresse, sauf sur ma parole, elle s'arrêtera que sur ma parole. C'est quand même assez exceptionnel. Et de quoi est faite cette relation d'obéissance. Pourquoi Élie se permettait d'être aussi clair ? Il était obéissant. Et là, on va le voir la semaine prochaine, on va reprendre ça. Ce qui m'a plu, c'est une sorte de relation avec Dieu. Dieu lui dit, va là, il y va. Il n'y a plus d'eau. Eh bien, c'est pas grave, Élie, va là-bas. Il ne se plaint pas, il se contente d'obéir. Moi, j'aurais râlé, hein. J'aurais dit à Dieu, mais attends, il n'y a plus d'eau. C'est toi qui m'as envoyé là. Et t'as vu un peu la catastrophe ? Est-ce que je t'ai bien entendu ? Certainement, j'avais les oreilles bouchées. J'ai pas entendu ce que Dieu m'a dit. Oh, Seigneur, vraiment, je suis désolée. Mais j'aurais tout essayé, quoi. Lui, il n'y a plus d'eau. Dieu lui dit, va là-bas. Il va là-bas. Wow. Une obéissance, une communion, une confiance, qu'on va peut-être voir un petit peu plus après. Il accepte d'être nourri par des oiseaux. boire l'eau du torrent, et puis Dieu, après, l'envoie ailleurs, une confiance extraordinaire. Et je pense que déjà, nous, on peut prier pour qu'on développe cette obéissance et cette confiance, parce que ce n'est pas gagné. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand les choses ne vont pas bien, oh « Seigneur, tu m'as abandonné, Seigneur, est-ce que ?» Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais ce n'est pas évident. Mais pourquoi il a pu développer cette relation avec Dieu? Parce qu'il était au service de Dieu. Le Dieu devant lequel je me tiens. Et je me dis, est-ce que je me tiens suffisamment devant Dieu? C'est-à-dire, est-ce que suffisamment souvent je passe du temps? Non, pas assez, pour ce qui me concerne. Mais je pense qu'on peut prier pour ça. Si on veut que l'Église avance, si on veut que répondre aux besoins des gens, il faut qu'on soit devant le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour des gens comme Élie, qui sont de la même nature que nous. C'est difficile à croire, mais tu l'as dit. C'est Jacques, frère de Jésus, qui a dit ça. De la même nature que nous. Et Seigneur, aide-nous, à, tout en étant de la même nature, à t'obéir, à te faire confiance, à ne pas nous décourager, surtout quand le torrent est à sec. Seigneur, conduis-nous et aide-nous dans notre quotidien à nous tenir devant toi, à regarder ce qui, dans notre vie, peut-être peut ressembler à de l'idolâtrie, c'est-à-dire tout ce qui nous éloigne de la communion avec toi, et à mettre les choses d'aplomb. Parce que tout ce que tu souhaites, c'est qu'on puisse revenir dans tes bras, qu'on puisse revenir proche de toi, qu'on revienne vers toi. Tu ne cherches pas à nous punir, mais tu nous aimes et tu veux le meilleur pour nous. Et le meilleur, c'est qu'on marche avec toi, selon ta promesse où tu dis « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos ». C'était la promesse pour ton peuple. Seigneur, nous voulons marcher avec toi ce matin. Amen.